Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec Jean-Pierre Cheny. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors je reçois ce jour un homme qui fait partie de cette cohorte de Françaises et de Français qui se dévouent pour l'intérêt commun et qui apportent leur concours à l'État. Sans eux, cet État serait bien en peine de fonctionner, notamment d'exercer ses prérogatives régaliennes. On trouve ces bénévoles dans les tribunaux de commerce, auprès des parquets comme délégué du procureur, chez le défenseur des droits, nous en avons reçu ici. Aujourd'hui, nous allons rencontrer l'un d'eux. Il a choisi de siéger au Prud'homme, une juridiction essentielle pour le monde du travail. Il va nous expliquer comment il fonctionne et nous parler de son quotidien de juge prud'homal. Bonjour Jean-Pierre Cheny.
Bonjour Jacques.
Alors, un peu quand même d'histoire, hein, parce que c'est de l'histoire ancienne. Vous avez fait une école d'électricité à vos tout débuts. Où ça ?
À Marseille. Bouches-du-Rhône.
D'accord. J'ai vu Moulines ou un nom comme ça.
Dans... C'est l'école d'électricité industrielle de Marseille.
D'accord. Et ensuite, vous avez navigué dans différentes entreprises.
On va dire qu'effectivement, au bout de 2 ans, l'école, c'est 4 ans, pour des problèmes tout à fait extérieurs, n'est-ce pas ? J'ai dû arrêter mes cours. J'ai eu mon sursis qui a été suspendu. Et pour ma chance à venir, mais je ne le savais pas encore, je suis donc parti à l'armée, et on ne m'a pas laissé le choix, je me suis retrouvé dans les parachutistes. Voilà. L'intérêt, c'est que ça m'a permis de découvrir une sorte de fraternité, parce que dans les paras, quand on est dans l'avion et qu'on va sauter, il n'y a pas de grade.
Oui, tout le monde se retrouve,
tout le monde se retrouve dans le vide et dans la trouille. Voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est de trouver un colonel qui, conscient de, je dirais, ma situation un petit peu particulière dans les paras, m'a proposé de poursuivre des études pendant mes 2 années, puis c'était 2 années à l'époque. Et il m'a aidé, j'ai donc été admis à poursuivre 2 années de droit à la fac de Montpellier, ce qui était assez risible, c'était dans les années 64. Et la première fois que je suis allé en cours, je suis arrivé en parachutiste. Je me souviens que 68, c'est 4 ans plus tard. Ça a été un succès garanti, mais j'ai passé là de très bonnes années, n'est-ce pas, restant quand même à la disposition de l'armée lorsque nous étions toutes les 5 semaines d'alerte, au cas où des vilaines personnes auraient voulu, venir nous embêter. Voilà. Alors, je dis que ça m'a donné donc cette possibilité déjà de me, on va dire, frotter un petit peu au droit. Et puis la deuxième, c'est que j'avais quand même un début de certificat d'électronique. Ça a été donc de rentrer, après quelques temps comme rédacteur technique, comme attaché commercial, dans une entreprise, parce que c'était en 68 à ce moment-là, où un ministre a pondu la TVA et obligé donc les entreprises à s'équiper de matériel pour faire, leur TVA et également donc les salaires qui avaient été fortement modifiés. Et je suis rentré comme attaché commercial donc pour vendre des facto-comptables, ancêtre donc de l'informatique actuelle, on va être clair, et de tomber sur une personne qui a été pour moi très importante, qui s'appelait Joachim Haus.
On y viendra à la fin de l'émission.
On y viendra après, mais un monsieur qui m'a beaucoup apporté, beaucoup appris, par son intelligence, sa connaissance de l'homme. Il avait été apatride, il a passé 4 ans dans une voiture à fuir les nazis, et ensuite, donc, il a été autorisé en 1945, de lancer une entreprise pour vendre des matériels dits allemands, puisqu'à l'époque, les Allemands nous remboursaient les dommages de guerre par du matériel.
Donc votre carrière est essentiellement commerciale.
Au départ, oui, puisque j'ai franchi donc attaché commercial, puis ayant eu la chance d'avoir de bons résultats, j'ai été inspecteur des ventes, chef des ventes, puis directeur des ventes. Et je passe sur les détails puisque j'ai pas mal voyagé, puisque j'étais à Lyon, Grenoble, puis ensuite à Strasbourg. Et à cette époque-là, j'ai donné des cours à l'Institut Polytechnique Lorrain. Ça a été ma première expérience de formateur et de rencontrer donc des jeunes qui étaient formés au métier commercial, d'apprendre la vente. Donc j'ai fait ça 2 ans. Et puis ça m'a donné l'idée de sortir en tant que directeur des ventes. On m'a proposé un poste de responsable de formation des cadres dans une entreprise de répartition qui s'appelait l'OCP, qui s'appelle toujours l'OCP, Office Commercial Pharmaceutique, dans laquelle donc on m'a dans un premier temps demandé de former les cadres, pharmaciens et subdeco, disons aux techniques de vente. Puis la direction générale m'a demandé de prendre en main la gestion de l'encadrement directement, leur formation, mais aussi leur carrière. J'ai fait ça 7 ans, au bout desquels, effectivement, nous avons eu un problème important sur une de nos bases. Il y en avait 75 en France. Et comme nous ne trouvions pas de candidat pour remonter cette entreprise, je me suis proposé. C'était à Annecy. Et en 3 ans, nous avons donc remonté l'entreprise. Ce qui fait que pour mon malheur, parce qu'Annecy, c'est...
Belle ville.
C'est magnifique. La mer, par le lac, oui, mais voilà. Aussi la montagne et tout ce qui suit. On m'a demandé donc de monter un établissement régional à Bordeaux. Et donc j'ai dû la mort dans l'âme, quitter Annecy pour Bordeaux. J'ai monté cette plateforme régionale. À la suite de quoi, un intense travail, j'ai eu donc beaucoup de déboires personnels, parce que ma vie personnelle a été mise un petit peu entre parenthèses à ce moment-là, tout en continuant d'ailleurs, tout en étant directeur régional, à avoir des cours de formation, puisque je faisais partie de l'association Progrès du Management, qui est une association donc émanant du MEDEF, on va être clair, pour essayer d'expliquer à nos dirigeants que la gestion d'une entreprise, c'est pas seulement des sous et des structures, mais aussi des femmes et des hommes, et leur apprendre à mieux communiquer et partager, on va dire, des objectifs communs pour le bien de tous. Ça a été une partie importante. J'ai donc quand même quitté volontairement, donc après 3 ans, après avoir monté cette régionale, j'ai monté une entreprise, j'ai eu quelques soucis pendant 1 an, parce que je me suis trouvé en face d'un associé pas très respectueux du bon droit. C'était une entreprise, on a créé une entreprise de restauration d'archives anciennes.
Qui n'avait rien à voir avec votre métier. Ah,
c'est une passion. C'est une passion, c'est technique, contrairement à ce qu'on croit, mais ça lie la technique à l'histoire. J'ai quand même eu dans mes mains des manuscrits de Louis XIV, des pièces très anciennes, puisque nous avons travaillé sur les pièces du Parlement du Béarn, c'était de 1200 et quelques, voilà, ça a été une autre approche. Et puis, avec ces, pour maintenir, si vous voulez, mon activité rémunératrice, un de mes amis du MEDEF m'a donc proposé de remonter son entreprise sur Toulouse, ce que j'ai accepté, j'ai fait ça pendant 8 ans. Et c'est ce qui m'a amené dans cette belle région occitane.
Donc une carrière entièrement dédiée à l'entreprise et à l'encadrement des salariés.
Oui, et à la formation.
Ça veut dire que vous étiez tout désigné pour aller au Prud'homme.
Alors, curieusement...
Comment ça s'est passé, votre
avis ? Simplement, lorsque je me suis trouvé à la retraite en 2003... Mon fils, qui par ailleurs était compagnon du devoir et plombier, m'a demandé de l'aider à la structuration de son entreprise. Et je vais dire, sans jeu de mots, que c'est mon fils qui m'a foutu au prud'homme. C'est-à-dire que comme on était une petite entreprise, comme j'avais quand même beaucoup de rapports avec, on va dire, le monde des affaires sur Toulouse et sur Bordeaux, le MEDEF m'a proposé de me présenter comme conseiller, donc prud'homal.
Donc vous n'avez pas effectué le choix, on l'a fait pour vous finalement.
Pardon ?
Vous n'avez pas effectué le choix, on l'a fait pour vous.
Quelque part, oui, mais c'est quelque chose qui m'intéressait, qui liait le droit, la formation, on va dire ça comme ça, et la relation humaine, importante.
Donc le MEDEF vous a dit, ben, vous serez notre candidat, vous êtes présenté, vous avez été élu.
Alors, ça ne se passe plus tout à fait comme ça maintenant.
Alors comment ça se passe ?
Les instances professionnelles, que ce soit donc les instances pour on va dire l'encadrement ou pour les salariés, proposent des candidats. Ces candidats sont soumis au tribunal. Et il faut l'acceptation du maître je vais y arriver.
Du président
Non, 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 ça monte beaucoup plus haut. Il faut qu'on ait l'accord de direction du travail, mais également donc du tribunal de grande instance.
Ça veut dire que l'État conserve toujours un droit de regard sur les candidats potentiels.
Oui, ce qui ne me paraît pas idiot, pour éviter effectivement donc, qu'il y ait peut-être quelques personnes égarées qui viendraient un peu influencer ce milieu qui, ma foi, doit être parfaitement libre. Je vais dire, contrairement à ce qu'on croit, de toute idée subjective.
Très bien, donc vous êtes élu et de vous siéger.
Alors, je suis proposé et on m'a élu.
Et vous êtes là depuis combien de temps ?
On va clore ça sous silence parce que j'ai maintenant 78 ans. j'ai demandé à être relevé de mes fonctions l'année dernière. Mais j'entre tout de suite dans le sujet. Le problème, c'est que...
On ne trouve plus de candidats.
Il faut lier deux choses. C'est le code du travail et le code civil. C'est le problème que nous avons, parce que bon, on se doit non pas... j'aime pas ce terme de juger, c'est-à-dire on dit conseiller, même si on nous appelle juge quand on fait effectivement donc les...
Donc vous avez une superbe médaille sur la poitrine.
Pardon ?
Vous avez une superbe médaille sur la poitrine.
Oui, on ne la met plus à cause du Covid.
Oui, d'accord.
J'ai peur que ça salisse, donc je la laisse devant, tout gentiment, voilà. Donc, il faut quand même que bon, on connaisse un petit peu des notions de droit et qu'on ait une activité qui nous a permis, soit comme délégué du personnel ou comme cadre responsable d'un certain nombre de fonctions. Bon, ben, j'ai été par mon boulot directeur. En tant que directeur, j'étais président des CE et des DP de mes entreprises.
Alors DP, on va traduire.
Délégué du personnel voilà. Et comité d'établissement. En deux mots, le comité d'établissement, c'est la réflexion sur l'évolution de la société, en partage avec les représentants du personnel, alors que les délégués du personnel, c'est revendicatif par parenthèse, c'est-à-dire que c'est là que se posent les questions d'augmentation, d'évolution de carrière, etc. Voilà. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé, mais c'était à ma retraite, là, hein. J'avais terminé mon activité professionnelle.
Ça veut dire que cette juridiction, comme d'autres d'ailleurs, ne trouve pas des jeunes en activité qui...
Difficilement. Soit parce qu'ils ne se présentent pas, parce que ça demande du temps. Ça demande un travail personnel intense. Non rémunéré, si je peux me permettre. La question n'est plus là. Si je vous disais à combien on est indemnisé, c'est ridicule, c'est pas pour ça qu'on le fait. Mais quand on touche 12 euros de l'heure pour... 2 heures de travail ou être remboursé à 30 centimes du kilomètre, je pense que vous comprendrez que c'est pas là qu'on va trouver effectivement un intérêt certain. Non, non. Les personnes représentant, on va dire, les salariés, sont bien sûr couvertes dans leur entreprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, elles vont partir 4 heures ou 6 heures. Et elles restent dans leur rémunération. Au niveau d'un patron, excusez-moi de le parler comme ça, 4 heures, c'est pas toujours évident de se bloquer alors qu'on a une boutique à faire tourner.
Avant de voir un peu comment ça fonctionne, cette juridiction prud'homale qui est très spécifique, je vous propose de faire une première pause musicale et c'est vous qui l'avez choisi, Ainsi par les Zarathoustra, c'est ça ?
J'adore.
Pourquoi ce choix ?
Cette musique m'a toujours intéressé, d'abord par le symbolisme qu'elle représente, Zarathoustra, n'est-ce pas ? mais également, donc, je pense que cette musique est quelque part incite à la réflexion et à la méditation.
Eh bien, nous allons méditer en l'écoutant. Voilà quelques notes d'Ainsi parler Zarathoustra, le choix de notre invité Jean-Pierre Cheny. Alors Jean-Pierre Cheny, cette juridiction prud'homale, parce que vous êtes là pour nous parler d'elle, comment ça marche? Vous avez dit tout à l'heure, il y a des ouvriers, il y a des patrons, voilà. Donc il y a une bidirection, non?
C'est pas tout à fait comme ça.
Allez, dites-nous comment ça marche.
Je vais d'abord peut-être expliquer ce qu'est le prud'homme, bêtement, simplement. On est chargé de régler les conflits individuels, je dis bien individuels, entre employeurs et salariés, liés par un contrat de travail de droit privé. Pour un avocat, ça veut dire quelque chose d'important quand même.
Certes.
Je reviendrai sur l'historique très rapidement. Nous sommes en fait les héritiers de l'arbitrage des métiers qui date de 1268. En 1287, les prud'hommes, pour assister les échevins, dont les contrôles des métiers et des maîtres, ils étaient là pour ça. 1296.
Vieille maison, donc.
Vieille maison. 1790, on est appelé juge de paix et prud'homme élu. On était à ce moment-là élu par la base. Je dis était, je m'implique. Mais bien sûr qu'en 1790, je n'étais pas encore dans
la... Oui, ça, je pense que tout le monde l'avait saisi.
En 1806, c'est la création du premier conseil des prud'hommes, et j'en suis fier, puisqu'étant lyonnais, ce premier conseil a été créé à Lyon. En 1848, le parisianisme, a été instigé. C'est ça dont nous nous impliquons. Employeurs ou employés, nous avons effectivement la même charge, les mêmes responsabilités, les mêmes combats. Une année sur deux, un tribunal des prud'hommes élit un président et un vice-président. Une année, le président fait partie de l'encadrement et le vice-président, donc, des employés. Et l'année d'après, c'est l'inverse. Donc, chaque année, il y a cette façon de tourner et d'avoir effectivement, à tour de rôle, chacun de nous, avec président, vice-président, qui reste effectivement, donc, des délégués élus. OK ? Il faut quand même savoir que nous avons à peu près 24% de réussite lorsque nous avons effectivement donc, fait à brosser. 39% sont près de 40% sont acceptés potentiellement, hein, à quelques modifications près. C'est quand même quelque chose d'important, mais ça nous permet donc de limiter les litiges. Ceci étant, dans notre structure, il n'y a pas effectivement donc que, bien sûr, les bureaux de jugement. Nous avons effectivement trois audiences types. La première, c'est le BCO. Ça, j'en suis particulièrement heureux. J'ai milité pendant près de 10 ans pour l'avoir, et nous l'avons que depuis peu de temps.
Là, il va falloir traduire.
Le BCO signifie le bureau de conciliation, n'est-ce pas, et de, on va dire, et d'organisation. Hein. C'est non public. Il y a un représentant donc des employeurs et un représentant des salariés. C'est pour effectivement essayer de trouver un accord le mieux possible et éviter effectivement donc de traîner une affaire pendant X temps.
Donc là, c'est une instance pure, d'abord paritaire et ensuite de négociation.
Absolument. Et elle est donc non ouverte au public. C'est-à-dire que là, le tribunal est fermé. On ne reçoit que les personnes, le demandeur et le défendeur, accompagnés bien sûr de ses avocats. Puisque maintenant, il n'y a pratiquement plus de délégués syndicaux à la place de syndicats. Avant, c'était très, très fréquent. Et maintenant, bah, pour la même raison, mais aussi parce que bon, c'est véritablement une profession. Je ne vous le cacherai pas à vous, n'est-ce pas, que d'être effectivement donc avocat. Maintenant, la plupart donc des gens que nous recevons ont bien sûr leur défense.
Alors ça, c'était pour le BCO.
BCO, Bureau de Conciliation et d'Organisation. Après, on a le Bureau de Jugement. Bureau de Jugement, on a défini avec les parties la date à laquelle nous allons pouvoir réaliser ce jugement. Et là, nous sommes 4. 2 employeurs, 2 salariés. Avec un président qui va être nommé, là aussi à tour de rôle. Une année, ce sont les employeurs qui président. L'année d'après, ce sont les salariés. Okay ? Donc il y a un président pour mener le débat. Pour mener le débat. Mais les 4 sont à équivalence de valeur de points. N'est-ce pas ? Et nous sommes là pour écouter, noter et éventuellement poser des questions quand cela nous paraît pas clair. À la suite de ce bureau de jugement, nous mettons en différé. Et en différé, ça se passe 8 ou 15 jours plus tard, les 4 se retrouvent sans greffier, et nous allons effectivement nous mettre d'accord, on va être clair, sur la décision qu'il y a à prendre sur ce jugement. Les 4 doivent être parfaitement d'accord.
Ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui va prendre le dessus sur les autres, non, ça veut dire que la partie, est-ce qu'on peut toujours craindre, la partie employeur ne prendra pas le dessus sur la partie salariale.
Alors, une raison simple, on ne juge que sur le fond, on juge sur le texte, n'est-ce pas ? La personne qui effectivement donc demande son droit, elle le fait en application de l'article X, Y ou Z du Code du travail, d'accord ? Et à nous de réagir par rapport à ce Code du travail, dire bon, ça correspond à ou ça correspond pas, mais également du Code civil. Et également, nous devons connaître les conditions, si vous voulez, internes à l'entreprise. Vous savez qu'il y a toujours une possibilité d'eux. Et l'entreprise, effectivement, nous fournit donc tous les documents à partir desquels il y a eu concertation au niveau donc des employeurs et de l'entreprise.
Quand on vous écoute, c'est merveilleux, c'est le monde des bisounours.
Alors,
c'est pas toujours comme ça.
Moi, je vais vous dire, je suis dans un petit prud'homme, mais enfin quand même pas si petit que ça, je n'ai connu qu'une fois dans nos concertations où nous avons dû faire appel à un conciliateur, en quelque sorte, c'est-à-dire faire venir un juge professionnel, parce que l'un de nous n'était pas d'accord avec les 3 autres.
Ce qu'on appelle le juge départiteur.
C'est le juge départiteur. Mais le juge départiteur ne vient que pour confirmer ou infirmer l'interprétation du texte. Il n'a pas droit de vote, si je puis dire. ça reste aux quatre personnes.
Donc c'est une espèce de conseiller juridique.
C'est un conseiller juridique.
Et qui vous dit, là vous allez peut-être un peu loin, le texte est là, voilà, revenez au code.
Absolument.
Et donc ça implique, alors on reviendra là-dessus, la troisième instance.
Alors la troisième instance, elle est très importante, c'est le référé. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu un problème entre employeur et salarié, et qu'il y a une difficulté réelle, une personne qui va se trouver du jour au lendemain, privée de toute ressource par exemple, la plupart du temps c'est ce cas-là, elle demande un référé, et le référé est immédiat. Et là, ce référé, en bureau aussi de jugement, il y a un employeur et un employé comme conseiller, et la décision est prise immédiatement. Il n'y a pas de discussion après à reporter. On décide. On décide l'application de remettre une somme, rectifier effectivement donc quelque chose qui n'est pas normal. Libre après, bien sûr, aux avocats de la personne et du défendeur de redemander un bureau de jugement. Mais on a versé les sommes qui revenaient donc à la personne de droit.
Alors deux questions. Quel délai, la première, quel délai pour avoir un jugement? Parce que on comprend bien que sur un salarié, c'est quand même important, surtout s'il réclame ses droits, son salaire, ses indemnités, ses frais, que sais-je. C'est important pour lui.
Bien sûr.
Est-ce que ça prend des mois ou est-ce que ça va plus vite?
Ce qui prend des mois, c'est pour établir le calendrier. Parce que, n'est-ce pas, nous ne travaillons, si je puis dire, que du mois de janvier au mois de, on va dire, juillet. Et ensuite, c'est repris donc en septembre-octobre. Donc, il y a quand même quelquefois des délais qui sont relativement longs. Mais d'autre part, lorsque nous proposons des délais, quelquefois, l'une des parties nous dit « j'ai besoin d'un mois de plus, deux mois de plus pour préparer le dossier ». N'est-ce pas ? C'est ça qui est très long. Ensuite, en bureau de jugement, une fois qu'on a passé le bureau de jugement, on va dire au bout de 15 jours, on prend la décision. On ne laisse pas plus longtemps, d'abord parce que dans nos têtes, ça deviendrait un peu plus nébuleux, n'est-ce pas? Donc on a intérêt à se réunir tout de suite pour effectivement donc, le compte rendu, si je puis dire.
En France, on a toujours deux degrés de juridiction. Est-ce que vous êtes beaucoup réformé par la Cour d'appel de Toulouse?
Où ça nous arrive, oui, oui.
C'est fréquent ou pas? Alors, je ne vais pas vous demander des statistiques.
Difficile, que je vais vous dire. Moi, j'estime qu'il y a à peu près, quand même, 40 à 50%, oui, qui vont en appel.
C'est beaucoup?
C'est beaucoup.
Et est-ce que l'appel, vous avez certainement dû regarder, est-ce que l'appel, la cour d'appel vous suit ou est-ce qu'elle a tendance à réformer complètement la décision?
Non, elle ne réforme pas complètement. Elle modifie certaines choses. Elle va modifier certains montants.
Alors justement, les montants, le président de la République avait modifié l'échelle de règlement. Est-ce que c'est important pour vous?
Non, foutaise, je vais dire. Parce que bon, vous pouvez effectivement avoir ça, d'accord, mais derrière, il y a d'autres demandes qui peuvent intervenir. Non-respect de telle ou telle chose, qui vont se rajouter. C'est-à-dire qu'en fait, la personne ne va pas se limiter, je dirais, à une grille. Hein, 3 mois pour tel truc, 6 mois pour tel autre. Hein, ça va quelquefois plus loin. On demande des dommages et intérêts, par exemple. Lorsqu'il y a eu des déplacements. Tout n'est pas légiféré complètement. On a eu à traiter des dossiers de personnes qui sont parties, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, et qui, en cours de déplacement professionnel, ont appris... d'une manière brutale, que l'entreprise cessait son activité haute. Il faut le gérer, ça. Ça prend du temps. Et là, ce n'est pas effectivement une grille qui va vous donner les applications. Mais alors, il y a beaucoup, effectivement, donc, d'appels qui ont lieu, pour revenir à votre question primaire.
Est-ce qu'il y a une véritable égalité devant ce type de juridiction? Parce qu'il y a un chef d'entreprise qui a les moyens, a priori, de se payer un avocat, et voire même de déduire, d'ailleurs, fiscalement... les honoraires de l'avocat, et à côté, il y a un salarié qui ne peut pas en faire autant. Est-ce que vous pensez qu'il y a une égalité de
Je vais vous choquer une fois de plus. Ça fait partie des images négatives qu'ont les prud'hommes. Ce n'est pas parce que vous êtes riche, beau et puissant que vous aurez effectivement un traitement différent par rapport aux pauvres demandeurs qui vient. Moi, je représente les employeurs, donc je me permets d'en parler en connaissance de cause, n'est-ce pas ? Non. Et je tiens à vous préciser aussi une chose, du moins dans notre tribunal, on a des avocats de grande valeur, qu'ils soient effectivement affectés à la défense d'un plaignant ou d'un défendeur. Donc je ne vois pas tellement de différence. En principe, si vous voulez, les avocats sont, je pense, spécialisés dans ce domaine prud'homal. On retrouve un petit peu toujours les mêmes. Ce qui est bien pour nous, parce qu'on sait ce qu'ils vont dire.
Comment vous les jugez, ces avocats ? Ils sont performants, ils ont préparé leur dossier.
Allez, je dirais 90% oui, compétents. À quasiment 100%, ils ont préparé leur dossier. C'est très rare que l'on aborde un bureau de jugement avec un avocat qui découvre. À la limite, la défense ayant peut-être changé d'avocat, va nous dire « je demande un report de bureau de jugement ».
Ça arrive souvent, les renvois ?
Oui.
Oui,
oui, quand même.
À l'initiative.
Soit parce qu'il manque des pièces, soit parce qu'il y a eu une incompréhension sur un envoi de documents. Et ça reporte tout parce que ça nous casse tout le calendrier. On n'est pas très nombreux.
Alors justement, j'allais vous poser la question, mais vous y venez, vous êtes combien ?
C'est une catastrophe. Nous, en encadrement, pour toute la, on va dire, la partie qui nous intéresse, hein, c'est, je suis à Castres, on est 5.
Oui, ce qui est finalement peu.
5 encadrements. Et je retrouve nos amis salariés à peu près dans le même nombre.
Ça veut dire que les gens ne veulent plus se dévouer à la cause commune, si je puis dire ?
Qu'est-ce que ça... je pense malheureusement que c'est ça.
Donc on a du mal à recruter parce que pratiquement, vous y allez, vous siégez une journée par semaine, c'est ça ?
Pas tout, ça dépend, oui. Étant donné mon grand âge, mes collègues prennent beaucoup plus. Hein, je suis en roue libre pour l'instant.
Donc eux prennent plus, ce qui veut dire qu'ils ont une charge. Ils viennent passer une journée et ils repartent avec les dossiers sous le bras qu'il va
non,
falloir.
Les dossiers ne sortent pas du tribunal.
Il va falloir quand même étudier ces dossiers. Il va falloir rédiger le cas échéant.
On a des heures pour venir effectivement regarder les dossiers au greffe, mais ils ne partent pas les dossiers. Non, surtout pas. Non, non. Et les délibérés se font au tribunal, pas à l'extérieur.
Il y a véritablement un échange pendant le délibéré ?
Absolument.
Il y a des arguments qui sont échangés ?
Oui, on écoute.
Et ça vous arrive d'écouter la partie salariale en disant « oui, ils ont raison » ?
Oui, bien sûr. Des deux côtés. Eux-mêmes écoutent en disant « oui, c'est vrai, vous avez raison, mais nous aussi, on écoute ». On juge encore une fois sur le fond et on juge sur les textes. Il n'y a pas d'émotion à avoir. Moi, je pourrais vous raconter que lorsque j'ai été responsable, donc directeur d'une entreprise, j'ai malheureusement eu affaire au prud'homme, parce que nous avions donc un chauffeur. C'était très important pour nous, les livraisons de médicaments. Hein, qui était malade, comme par hasard, à 11h le soir, alors qu'il prenait sa tournée à minuit. Et c'est devenu tellement répétitif qu'il y a un moment, c'est moi qui étais donc le demandeur. Et le président donc du tribunal m'a donné raison. C'est-à-dire que là, dans cette situation, l'entreprise perdait effectivement donc de l'efficacité et mettait en cause les salariés de notre entreprise. Moins de chiffre d'affaires... Il faut prendre des décisions. Donc, dans les deux cas, il y a une écoute. Il y a une écoute réelle.
Une véritable écoute. Je parlais en démarrant de cette émission du fait qu'un certain nombre de Françaises et de Français se dévouent pour la cause commune. C'est un peu le cas. Ça vous semble normal que l'État n'ait pas des juges professionnels pour ce type de choses ? Ça vous semble normal que des gens soient obligés gratuitement de prendre sur leur temps, sur leur énergie, sur leurs affaires, sur leur famille, pour aller accomplir une mission de justice ? C'est pareil au tribunal de commerce, hein, soyons clairs.
Oui, c'est une question, c'est deux questions en une seule. Non, gardons l'esprit prud'homal. Pourquoi ? Parce que là, ce sont des professionnels qui, effectivement, écoutent des professionnels.
Vous pensez que le fait d'être professionnel
pas
les,
du droit,
les rend plus performants au niveau de la décision ?
De la compréhension, oui, bien sûr. On est capable, effectivement, de reconnaître une différence fondamentale entre un harcèlement pour heure supplémentaire indue et réalité, si vous voulez, du partage des heures, par exemple, parce que c'est la nécessité de l'entreprise.
Un magistrat professionnel ne serait pas capable de faire ça.
Il y aurait un point de vue, je dirais, très... comment dire... un peu dogmatique, quelque part. Hein, un respect de la loi, d'accord. Mais il faut comprendre aussi le contexte. Pour comprendre un contexte, il faut avoir vécu l'entreprise. Il faut avoir été chef d'entreprise ou d'avoir été délégué du personnel, puisque la plupart de nos conseillers salariés sont issus des syndicats professionnels. Ils ont tous eu plus ou moins une charge, soit au niveau donc des délégués ou du comité d'établissement ou d'autres. Hein.
Pour autant, vous nous avez dit tout à l'heure, on est quand même pas mal réformé. Il y a à peu près, c'est très difficile à dire, 50% des dossiers qui vont se retrouver devant la cour d'appel. Et là, on est sur des magistrats professionnels.
Absolument.
Comment ça se passe ?
Ben, écoutez, c'est le droit le plus strict pour une des parties de refuser la décision qui a été prise par les prud'hommes. Donc, effectivement, de faire appel, si vous voulez, à un jugement sur, comme je dirais encore, sur le fond. On a respecté telle chose, mais on n'a peut-être pas pensé à tel autre article. Ça, oui, c'est du droit, c'est du travail d'un spécialiste du droit. Mais dans le contexte de l'entreprise, on a aussi peut-être mal établi, certaines fois, les raisons qui ont fait que nous avons opté pour telle et telle solution. Parce que ça correspondait à... je dirais, au fonctionnement type de l'entreprise.
Est-ce que le salarié dans ce type de juridiction, comme dans d'autres d'ailleurs, n'est pas défavorisé parce qu'il n'a pas forcément le temps pour lui ? Le patron, il peut toujours faire tirer, il peut toujours demander des renvois, il peut toujours aller après un appel, où on va recommencer le parcours du combattant, et le salarié, en attendant, il attend ses droits.
Oui, c'est très méchant ce que vous dites. Ça voudrait dire qu'effectivement, donc, les patrons décident ça, je dirais, par-delà la jambe, ce qui est faux, parce qu'on veut effectivement un traitement le plus vite possible en phase de litige, qui peuvent effectivement poser des problèmes dans l'entreprise, dans la vie même de l'entreprise. Et d'autre part, c'est nous prendre pour des gugus, nous, en tant que conseillers, puisque quand même la décision d'un report, c'est nous qui la prenons. Et si on juge que la demande est injustifiée, nous ne faisons pas de report. Si maintenant, effectivement, l'une des parties ne se présente pas, la décision, nous pouvons la prendre.
Est-ce que vous pensez que la justice est bien rendue en France ?
Écoutez, en règle générale. Je ne veux pas rentrer dans des jeux politicards, parce que ça serait très mauvais, mais je pense qu'on a la chance d'avoir une justice indépendante. À quelque niveau que ce soit. Et c'est mauvais de faire, supposer tout ce qu'on a pu entendre jusque-là, là-dessus. Parce que c'est ça que les gens, ne comprenant pas, mettent en doute et disent, bon, le droit, la rigolade, la justice, il n'y en a pas. Si, il y a une justice. Et je pense que d'un côté comme de l'autre, je reviens à mes prud'hommes, j'ai pour l'instant, je vois la chance de ne pas avoir été impliqué dans une affaire civile. Il y a une énorme bonne volonté de la part de ceux qui actent dans ce domaine pour que ça se passe le mieux possible dans l'intérêt du droit et de la justice, et non pas de l'un ou de l'autre. Je vous rappelle qu'en bureau de jugement, on est quatre. Quand effectivement on reçoit les demandeurs et le défendeur, on ne va pas dire lui, il est patron, lui, il est employé, et ainsi de suite.
vous propose de faire une deuxième pause musicale. C'est moi qui l'ai choisi. Alors on va écouter les Goguettes en trio, mais à quatre, qui est un groupe que j'aime bien, nous parler de Monsieur Mélenchon, et ça s'intitule Mélenchon, comme d'habitude.
Je m'assois et je suis très calme, je suis concentré comme d'habitude. Devant moi, des journaleux, des têtes de nœuds, comme d'habitude. Après un jingle à la con, il me pose une question. Comme d'habitude, elle est nulle, mais faut que je réponde. Comme d'habitude, il me gonfle, il me parle que de Le Pen, ils le font exprès. Comme d'habitude, et puis des échecs du front de gauche. Je commence à bouillir, comme d'habitude. Après, il me parle de Cuba, du Venezuela, comme d'habitude. Voilà. Je vais m'énerver, comme d'habitude. Comme d'habitude, ils vont me trouver. Je vais me lâcher, sortir de moi. Comme d'habitude, il faut que je rabâche. Comme d'habitude, il faut que je me fâche. Comme d'habitude, tais-toi, El Kabash. Comme d'habitude. Et puis, je m'apaise un peu. Je parle de la mer, comme d'habitude. Le nez dans leur petit papier, ils en ont rien à secouer. Comme d'habitude, je les hais, ces petits peignes-culs. Je les supporte plus, comme d'habitude. Et là, me parle de Poutine, comme d'habitude. Comme d'habitude, interviewé par des demi-décérébrés. Comme d'habitude, il faut se les farcir. Comme d'habitude, ça me fait pas plaisir. Comme d'habitude, je vais les démolir. Comme d'habitude,
voilà, c'était les Goguettes en trio, mais à quatre, qui nous chantaient Mélenchon comme d'habitude. Et nous retrouvons notre invité Jean-Pierre Cheny, notre conseiller, notre juge prud'homal. Alors Jean-Pierre Cheny, bien sûr en micro, la discussion se poursuivait. Et vous me disiez, mais attention, nous avons des sections spécialisées, ce qui permet de ne pas nous égarer sur des terrains que nous ne connaissons pas.
Absolument, absolument. Ce sont les terrains que j'ai évoqués, c'est l'industrie. Et ce ne sont pas les mêmes conseillers qui font l'industrie et l'encadrement, par exemple, le commerce, l'agriculture et les activités diverses, c'est-à-dire vraiment les petites structures, on va dire ça comme ça. Et l'encadrement, bien sûr. Et à chaque fois, Donc les conseillers sont issus professionnellement de ces domaines-là. Donc on est censé bien connaître les domaines.
Oui, il y a quand même une...
Les conventions collectives, c'est important. Ces conventions collectives rentrent effectivement dans nos, on va dire, dans nos archives. On a toutes les conventions collectives. Et lorsqu'on fait un délibéré, on n'hésite pas à se plonger, j'allais dire, dans le Lefebvre, je ne fais pas de publicité, mais bon, ou dans les côtes d'Alloz, quoi. C'est évident.
Alors, il y a une catégorie de personnes dont on n'a pas parlé jusque-là, qui sont les greffiers, qui sont essentiels au fonctionnement d'une juridiction. Sans eux, rien ne marche.
Absolument.
Est-ce que vous avez des greffiers ?
Alors, on a une greffière en chef. Avant, nous avions deux greffiers, maintenant, il n'y en a plus qu'un.
C'est une profession libérale encore, donc.
Absolument.
Oui,
tout à fait. Rattachée, donc, au ministère de la Justice. Et donc qui partage son temps entre, on va dire, le tribunal civil, je vais dire ça comme ça, et le prud'homme.
D'accord. Donc les...
Et alors, est-ce un travail admirable, je tiens à le dire, parce que bien sûr, nous n'avons pas tous les mêmes réactions pour rédiger un attendu.
Est-ce qu'ils pèsent sur la décision ?
Absolument pas. Non, non, ils vont peser sur la façon de présenter les textes, et de respecter, on va dire, la structure du texte. Parce qu'il y a une structure à respecter. D'abord, le demandeur, ensuite le défendeur, l'exposé des faits de l'un et de l'autre, et ensuite, ce qui est issu donc du délibéré. Et de rappeler, vous faisiez allusion tout à l'heure au moyen, la demande qui est faite par l'un et par l'autre, il s'appelle l'article 700, c'est-à-dire les dommages, intérêts pour payer les frais de justice.
Donc le greffier est un rouage essentiel.
Absolument.
Est-ce que l'État le reconnaît ?
J'en suis pas convaincu. Je ne pense pas que cette profession, qui mérite beaucoup, soit reconnue à sa juste valeur. Ça j'en suis convaincu.
Jean-Pierre Chenille, on parle un peu de vous. Vous avez dit que vous preniez un peu de recul. J'imagine que le parachutisme, excusez-moi, à votre âge, ce n'est pas une... C'est terminé.
Oh oui, j'ai terminé, j'avais créé un paraclub. Bon, à l'armée, j'ai eu la chance de faire beaucoup de sauts, puisque nous étions dans un régiment donc actif. Et après, j'ai fait donc... j'ai créé un paraclub. Voilà. Et d'ailleurs, ma première épouse, vraiment décédée maintenant... je l'avais amené avec nous, c'était quand même dans les années 68.
Oui, on parle de temps.
Il y avait peu de jeunes femmes qui pratiquaient ce sport, mais dans mon club, je devais en avoir 5 ou 6 quand même, et qui ont poursuivi.
Quand je vous ai demandé quelle est la personne qui vous avait marqué, entre guillemets, qui vous a fait, vous m'avez dit mon premier patron, Joachim Hoss, dont vous avez un peu parlé tout à l'heure. Il vous a marqué comment ?
Ah, ce petit homme, mine de rien, avait...
Pourquoi petit homme ?
Parce qu'il était tout petit, il faisait 1m65, excusez-moi, je n'ai rien contre les tailles. Et ce monsieur a eu une vie, il était, bon, juif apatride, comme je vous l'ai dit. Il s'est défendu pendant toute la guerre de 40 contre les nazis. Tout de suite après, il est rentré dans cette entreprise, il s'appelait Oriat, c'est Olympia, la Werk AG Olympia, n'est-ce pas ? Et c'est lui qui l'a lancé en France. Je ne sais pas pourquoi, quand je suis sorti du service, j'ai subi 2 ou 3 années comme rédacteur technique pour l'aviation, donc dans une entreprise valentinoise, Sextant Avionique. Et bon, je me pelais comme un remords. Et c'est à la suite d'une annonce que j'étais allé donc postuler à cette... à ce poste pour vendre des factos comptables. Et ce monsieur, je me souviens, lorsque j'ai passé les tests, m'a couru après dans Lyon en me disant « Messieurs Chenille, je crois que vous allez faire partie de notre maison. » Ça devait être en octobre de l'année 67, et je suis rentré donc en janvier 68.
C'est ce qui a influencé votre choix quand je vous ai dit « Parlez-moi d'une œuvre d'art ». Vous m'avez dit « Oui, un film, La liste de Schindler ».
Ah oui.
Pourquoi ce
parce
choix
que je trouve que ça me fait vibrer, ce film, par le rappel, effectivement, de cette période horrible, n'est-ce pas, où on a eu des hommes qui, sous couvert d'affaires, ont fini effectivement par se transformer complètement pour devenir de véritables humanistes. Je crois que le plus important de ce film, c'est sa conclusion. Lorsque Schindler, effectivement, donc, est enterré en Israël avec les pierres que chacun de ceux qui l'a sauvé ont mis sur sa tombe.
Il y en avait beaucoup.
Qui ont bien illustré ce que ça veut dire. Qui sauve une vie, sauve le monde, quelque part. Et c'est ça que je retiens de ce film.
Quand on a parlé de... Alors, on va rentrer dans la dernière séquence de cette émission, qui est toujours la séquence littéraire. Vous avez choisi la troisième tribu d'Arthur Koestler. C'est quand même un livre qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque de nombreux antisionistes, des antisémites aussi, se sont référés à l'essai de Koestler pour mettre en cause la légitimité de l'État d'Israël. D'ailleurs, il était conscient, Koestler, de ce risque, puisqu'il a écrit, et je le cite, pardon, c'est le Covid, que les chromosomes de son peuple contiennent les gènes des Khazars et ceux d'origine sémitique, romane ou espagnole est sans importance et ne peut affecter le droit d'Israël à exister, ni l'obligation morale de toute personne civilisée, non juive ou juive, de défendre ce droit. Pourquoi vous avez effectué ce choix ?
Précisément parce que je crois qu'on dit beaucoup de bêtises sur ce problème, sur cet empire Khazar. Son livre vaut par le fait qu'il parle de cet empire.
Alors, le livre, on ne l'a pas dit, c'est la troisième tribu qui a été
publiée
en 1976 et qui défend une thèse qui veut que les Juifs de l'Europe de l'Est et leurs descendants, c'est-à-dire les Ashkenazes, ne descendent pas ou peu des anciens Israélites, mais principalement des Khazars, qui sont un peuple originaire de la région du Caucase du Nord qui a été converti au 8e siècle au judaïsme et après ils ont migré vers l'Europe de l'Est sous la pression de tribus nomades qui arrivaient, qui les poussaient un peu dehors. Est-ce que ce livre vous paraît être rigoureux quant à l'histoire qu'il raconte ?
L'histoire, pas forcément. Il faut poursuivre ensuite et chercher à comprendre et à connaître l'histoire de cet empire Khazar. Et là, il y a une émission à faire parce qu'il y a une méconnaissance totale. On n'en parle pas. On va parler d'Attila, qui a duré 70 ans. On ne parle absolument pas des Khazars. Quand même, du 7e siècle au 13e siècle, l'empire Khazar a existé en tant qu'empire structuré. L'idée, effectivement, donc, de venir à la religion mosaïque, c'est simple. D'un côté, il y avait Byzance. De l'autre, la naissance, quand ça s'est fait, 8e siècle, la naissance, effectivement, donc, on va dire, de la religion arabe, enfin, pas arabe, voilà, islamiste, pardon. Et l'empereur qui régnait à l'époque a demandé à chacun des sages des livres, c'est-à-dire demander au califat de Cordoue de venir pour représenter effectivement donc la religion juive, parce qu'elle était plus pure à ce moment-là là-bas. La religion, donc, il a demandé à un moine de venir aussi, et également donc à un érudit de l'islam. Et le choix a été fait sur l'un des trois en disant, comme ça, il y aura une représentation de chacune des grandes religions du livre. Derrière, ce qui s'est passé, c'est l'invasion slave qui a fait qu'on a eu cet éclatement. Dire que la séparation entre Séfarade et Ashkenaz s'est fait là, c'est ridicule. Parce que il n'y avait pas... Israël n'existait pas. Bon, je veux dire, la Palestine existait, mais pas Israël. Faudrait-il bien connaître aussi ce qui s'est passé il y a à peu près 2000 ans dans cette partie du monde là-bas, qui n'a pas tout à fait à voir avec l'histoire officielle.
Voilà, là, qu'on peut retrouver dans un excellent film. J'avais fait une émission avec son réalisateur, ça s'appelle Le Char et l'Olivier. On l'a repassé quelques fois, c'était excellent. Jean-Pierre Cheny, Moi, je vais vous parler, hein, la troisième tribu, donc je rappelle votre choix, la troisième tribu d'Arthur Koestler. Et moi, je vais vous parler de trois choses. La première, c'est le Lions Club de Toulouse Nation, qui le 13 octobre, 20h30, va faire un concert à la cathédrale et avec des trompes de chasse. Trompes de chasse, vous imaginez, dans la cathédrale, ça va bien résonner. Il y aura aussi de l'orgue et tout ça au profit de l'hôpital Mondoudou, donc pour les enfants. Également, nous aurons une certaine histoire de l'Occitanie, un film de Serge Planchou au cinéma ABC Toulouse le 4 octobre à 18h45, donc une histoire de France qui ne ressemble pas véritablement à celle que vous pouvez lire dans les manuels habituels et qui nous sera contée par Maurice Andrieux, journaliste et homme de théâtre et qui a été, vous le connaissez peut-être, il fut responsable de l'émission Occitane, Vivre al País, qui était sur France 3 et vous verrez sa vision historique qui nous permet de comprendre qu'il faut se méfier un peu, qu'il peut exister des récits mensongers.
Absolument.
Et enfin, troisième conseil, un peu plus loin celui-là, et Oz, samedi 1er octobre à 20h30, au cinéma-théâtre, la compagnie Opéra Éclaté fera sa guinguette Front Populaire. Mm-hmm. Alors, on va retrouver Éric Pérez et Anne Barbier au chant, Jean-Marc Padovani au saxophone, Alain Bruel à l'accordéon et Maxime Paris à la batterie. C'est un tour de chant qui va nous permettre de réécouter, mais c'est toujours très, très intéressant de revenir sur ce passé des chansons populaires des années 30. On va retrouver Fréhel, on va retrouver Mistinguette, Georgette Plana, Lucienne Delisle, Fernandel, Barbara, Charles Trenet et bien d'autres. On va fredonner la Java bleue sous les ponts de Paris, Plus beau tango du monde, La bipère du trottoir, Le doux caboulot, etc. Il y en aura pas mal d'autres. Donc une excellente soirée, ce sera de la belle musique, de la belle chanson, mais aussi un peu d'histoire, de notre histoire que racontent ces chansons. Et la chanson populaire est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger. Merci Jean-Pierre Cheny d'être venu nous parler un peu de vous, beaucoup de la juridiction des prud'hommes que beaucoup connaissent mal. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique chez Liane Amada, et vous pourrez retrouver bien sûr le podcast de cette émission ainsi que tous les autres podcasts sur le site de la station Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.